Un journal de la rédaction présenté ce soir par Claire Flochel. Bonsoir Claire.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un verdict pour l'histoire. Après 3 mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict au procès des attentats de janvier 2015 en France. Des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité ont été requises contre les 14 accusés. On retrouve Florence Turm en direct du palais de justice de Paris dans un instant. Le lancement de la campagne de vaccination en France contre le coronavirus dès la dernière semaine de décembre, si les conditions sont réunies. C'est ce qu'affirme Jean Castex. On y revient avec Solène Cressan. À Marseille, un artiste a décidé de se confiner dans un cube transparent, dans une galerie marchande. Son but, inciter les visiteurs à se questionner sur les libertés en temps de crise sanitaire. Et puis nous irons à Londres, où la pollution de l'air est à l'origine de la mort d'une fillette de 9 ans. Pour la première fois, la justice britannique reconnaît son rôle. L'épilogue du procès des attentats de janvier 2015. Après 3 mois d'audience devant la cour d'assises spéciale de Paris, le verdict est tombé il y a quelques minutes. Florence Turm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du palais de justice de Paris pour France Culture. L'un des principaux accusés, Ali Rizapola, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. 30 ans de réclusion également pour Ayad Boumediene, la veuve du tueur de l'Hypercacher.
Oui, les 5 magistrats professionnels de la cour d'assises sont restés pour la plupart des accusés en deçà des réquisitions du parquet national antiterroriste qu'ils ont cependant suivi concernant les fuyards, Mohamed Belloussine, condamné à perpétuité, et Ayad Boumediene, la compagne d'Amedi Koulibaly, vous l'avez dit, 30 ans de réclusion criminelle. La cour retient la plus lourde charge, la complicité contre Ali Rizapolat, convaincu de sa culpabilité en raison de sa grande proximité avec Amedi Koulibaly, les nombreux échanges et déplacements qu'ils ont opéré ensemble. Il a joué, explique le président, un rôle particulièrement actif et transversal dans la logistique. 30 ans de réclusion criminelle prononcée au lieu de la perpétuité requise. Mais c'est important, cette complicité vise non seulement les actes terroristes commis par Amedi Koulibaly, mais aussi ceux des frères Kouachi. La cour a établi un lien indéniable entre les 3 auteurs et les actions menées de façon concertée. Concernant les autres accusés présents à l'audience, on peut finalement les diviser en 2 groupes, ceux qui avaient une proximité, une relation avec Amedi Koulibaly, Willy Prévost, 13 ans de réclusion, Michael Nézard Pastoral-Ouattic, 18 ans contre 20 requis par le parquet. Il s'est d'ailleurs pris la tête entre les mains en entendant le verdict. Amar Ramdani, lui, est finalement le seul pour qui la cour a alourdi la peine requise, 20 ans au lieu des 17 demandés. Et je vous le disais, Claire, ce sont pour les autres accusés des peines nettement en deçà des réquisitions qui ont été prononcées, de 4 ans de prison à 10 ans de réclusion criminelle. Cela tient à une requalification des faits.
Et en revanche, Florence, la Cour n'a pas retenu les arguments de l'accusation pour plusieurs des accusés concernant l'association de malfaiteurs terroristes criminels.
Oui, cette association de malfaiteurs terroristes au centre de tous les débats, infraction passible de 20 ans de réclusion criminelle au moment des faits commis, eh bien la Cour a décidé de ne pas la retenir pour 7 d'entre eux. Contrairement aux réquisitions du parquet, elle a estimé certes qu'ils étaient coupables d'association de malfaiteurs en ayant contribué à fournir des armes, mais pas ce fameux mot de terrorisme, donc qu'ils n'avaient pas de proximité suffisante avec Amedi Koulibaly pour connaître précisément son projet. Et surtout, elle le souligne, pour plusieurs d'entre eux, aucune conviction personnelle ou idéologie religieuse, aucune adhésion à une idéologie terroriste. La Cour qui opère donc cette distinction, ce qui explique le quantum des peines prononcées il y a quelques minutes au terme de ces 3 mois de débat.
Florence Turm, merci beaucoup, en direct du Palais de Justice de Paris pour France Culture. Par ailleurs, plusieurs chercheurs ont suivi l'intégralité des audiences dans le cadre de 2 projets soutenus par la mission de recherche Droit et Justice. Leurs analyses et leurs réflexions sur ce procès historique sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. 8 mois de prison avec sursis pour l'ancien ambassadeur du Vatican en France. Luigi Ventura a été condamné pour des agressions sexuelles sur 5 hommes lors de réunions publiques en 2018 et 2019 dans l'exercice de ses fonctions diplomatiques. L'article 24 de la proposition de loi sécurité globale n'existe plus. Il va être réécrit en totalité, donc ce n'est plus la peine d'aller manifester. Le message vient de Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale ce matin sur France Info. Malgré tout, cet article très controversé qui vise à interdire la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre continue de semer la pagaille dans la sphère politique. Et les sénateurs sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Rosalie Lafarge.
La mise au point vient du président de la commission des lois du Sénat.
Le Sénat, depuis la fin du mois de novembre, et précisément le 26 novembre, est désormais saisi de ce texte.
Un texte mal préparé, selon le sénateur LR Jean-Noël Buffet. Il dénonce l'absence d'études d'impact et d'avis du Conseil d'État.
On est quand même dans une situation d'impréparation, disons-le très directement, générale de ce texte par l'exécutif et que vraiment c'est tout à fait regrettable.
Et le Sénat a bien l'intention de réécrire cet article parce qu'à en croire le rapporteur, les Républicains, Marc-Philippe Daubresse, sa formulation aujourd'hui n'est ni faite ni à faire.
Ce texte est très mal écrit. Ce texte de l'article 24 va poser des problèmes de constitutionnalité. Nous essayons de mettre de l'ordre dans un désordre à la fois de méthode, de forme et d'écriture. Et donc, nous pensons qu'il y a une nouvelle rédaction possible, équilibrée, entre liberté et autorité, qui protège complètement la presse, qui renforce la protection des gendarmes et des policiers et qui soit constitutionnellement correct.
Comment le Sénat ne le détaille pas encore? Tout juste précise-t-il qu'il veut sanctuariser la loi de 1881 sur la liberté de la presse et emprunter la voie du code pénal pour punir une éventuelle utilisation malveillante d'images de forces de l'ordre. Mais la rédaction finale n'est pas pour tout de suite. Les sénateurs vont poursuivre leurs auditions jusqu'en janvier et le texte sera dévoilé lors de l'examen en séance, a priori au mois de mars.
Rosalie Lafarge. À Marseille, le socialiste Benoît Payan confirme sa candidature pour prendre le fauteuil de maire et remplacer Michel Rubirola qui a annoncé hier sa démission pour raison de santé. Venons-en maintenant à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Les 27 pays de l'Union européenne devraient pouvoir commencer à vacciner le même jour. Et avant la fin de l'année, annoncée ce matin la présidente de la Commission européenne, eh bien, les premiers Français vaccinés le seront dès la dernière semaine de décembre. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi devant l'Assemblée nationale Jean Castex. Le Premier ministre a précisé la stratégie vaccinale du gouvernement. Le calendrier reste très proche de celui annoncé par le ministre de la Santé il y a 2 semaines. Mais il s'est accéléré depuis que l'Agence européenne du médicament a décidé d'avancer à lundi prochain sa décision sur le candidat vaccin de Pfizer-BioNTech. Bonsoir Solène Cresson.
Bonsoir.
Solène, Jean Castex a aussi tenu à rassurer.
Les premières vaccinations arriveront donc dans un peu moins de 2 semaines. Et elles concerneront les personnes âgées dans les EHPAD, 1 million de personnes, a dit Jean Castex devant les députés.
Cette première phase s'échelonnera sur une période de 6 à 8 semaines pour tenir compte notamment du délai de 21 jours entre la première vaccination et le rappel.
Une première phase conditionnée à l'avis de la Haute Autorité de Santé qui sera rendue, selon le Premier ministre, dans la foulée de la décision européenne. Dans un deuxième temps, seront vaccinées 14 millions de personnes à risque. Les personnes âgées, celles avec des comorbidités, mais aussi les professionnels de santé. Et c'est à ce moment-là que la médecine de ville va jouer un rôle important, ce que réclamaient les médecins généralistes.
Chacun devra pouvoir se faire vacciner par un professionnel de santé à côté de chez lui, qu'il connaît et en qui il a confiance.
Pour le reste de la population, ce ne sera qu'à la fin du printemps et non au début, comme indiqué début décembre. Jean Castex a aussi tenu à rassurer sur l'efficacité et surtout la fiabilité du vaccin, parce que l'objectif de ce débat parlementaire, c'est d'obtenir la confiance des députés et donc à travers eux, des Français. Le débat doit durer encore 1h30. Il sera suivi d'un vote non contraignant et le chef du gouvernement fera le même exercice demain, cette fois devant les sénateurs.
Merci Solène Cresson. Et le début de la campagne vaccinale ne va pas marquer la fin de l'épidémie, a tenu à rappeler Jean Castex qui annonce le recrutement de 4000 emplois temps plein pour l'assurance maladie et la possibilité d'une visite à domicile pour toute personne testée positive grâce à 1500 infirmiers libéraux et 3000 accompagnateurs sociaux. Pour demander la réouverture des lieux culturels, un référé liberté a été déposé cette semaine devant le Conseil d'État. Hier, ce sont les professionnels du monde de la culture qui ont manifesté partout en France. D'autres questionnent, eux, les libertés en temps de crise sanitaire. Et c'est ce que fait un artiste, l'artiste Gaëtan Marron. Depuis plus d'une semaine, il s'est confiné dans un cube transparent, un cube de plexiglas à la vue de tous au sein d'une galerie marchande de Marseille. Reportage de Romane Porcon.
Dans ce cube de confinement de 4 mètres carrés, Gaëtan Marron possède seulement quelques objets.
L'idée ici de l'œuvre, c'est que j'ai presque tout ce qu'il me faut dans ce cube, mais j'ai que des choses qui sont non essentielles. J'ai la télévision, j'ai une machine à café, j'ai du confort, mais j'ai pas de toilette, j'ai pas de douche, et surtout, je suis privé de liberté. Donc voilà, la réalité, la question, c'est est-ce que même si on a tout et qu'aujourd'hui on a des intérieurs et un confort comme l'humanité l'a rarement connu, Est-ce que pour autant ça vaut le prix de ce qu'on a à côté, c'est-à-dire le fait de ne pas bénéficier de sa liberté?
Dès qu'il sort de son cube, il tient à remplir une attestation, même si ce n'est plus obligatoire.
Et je continue à le faire parce que c'est un peu ridicule, mais du coup, c'est un peu pour interroger cette idiotie de faire des attestations aujourd'hui. On s'auto-autorise à sortir pour promener son chien. Et si on se fait contrôler, la police vérifie qu'on s'est bien auto-autorisé à sortir. Ce qui est un peu ridicule à mon sens, mais l'idée là c'est ça, c'est-à-dire que je remplis une attestation pour aller aux toilettes. Donc je la mets en évidence quand je sors de mon cube pour aller ou faire une toilette. Et l'idée c'est ça, c'est d'interroger un peu sur ce côté délirant quoi.
Il lui manque finalement l'essentiel, le contact avec les autres.
Moi ce qui manque le plus c'est les interactions sociales. On a fait un petit événement privé ici où il y avait 5-6 personnes qui étaient venues boire l'apéro. Moi j'ai bu l'apéro mais dans mon cube. C'était étrange de voir les gens derrière passer une bonne soirée etc. Et comme si vous n'existiez pas en fait. Je me suis mis à la place de gens qui vivent vraiment la solitude ou ce confinement en seul par exemple. Ou les personnes âgées qui étaient dans les EHPAD qui ne pouvaient pas avoir les visites de leur famille. Je me dis que ça devait être vraiment éprouvant mais bien plus que beaucoup d'autres choses. Et je crois que les conséquences indirectes de ce virus vont être beaucoup plus lourdes que ce qu'on imagine. Et elles le sont, je crois, déjà aujourd'hui, même en cette période de fête, quoi.
Ce qu'ils souhaitent, c'est que les visiteurs s'interrogent sur leur propre confinement.
Et en me privant de liberté volontairement, l'idée, c'était de mettre les gens face à cette situation un petit peu inédite et à l'ineptie de se priver volontairement de liberté, quoi. J'ai pas de réponse à apporter, c'est vraiment un questionnement en se demandant quelle est la suite, en fait. C'est-à-dire que si on continue comme ça, jusqu'où on va aller? Est-ce que vraiment il faut réellement considérer que les activités comme la culture, l'art, les restaurants, etc. sont non essentiels? Ou alors est-ce que c'est vraiment ce qui nous définit en tant qu'humains et du coup notre propre humanité quoi?
Son confinement dans son cube transparent prendra en tout cas fin ce jeudi.
Romane Porcon, la culture victime de la pandémie en France, mais aussi partout en Europe. Nous étions ce matin en Espagne, dans notre journal de la mi-journée en Angleterre. Eh bien, nous prenons ce soir la direction de l'Allemagne, qui est entrée aujourd'hui dans un reconfinement partiel. Mais depuis un mois et demi déjà, le monde de la culture a dû se mettre à l'arrêt. Et la situation devrait durer au moins jusqu'au 10 janvier, mais possiblement beaucoup plus longtemps. Autrement dit, comme en France, les acteurs culturels allemands sont inquiets. Ludovic Piétenu, notre correspondant en Allemagne.
Est-ce que la culture est considérée comme importante en temps de crise par les dirigeants politiques? C'est la question posée par les acteurs culturels début novembre quand l'Allemagne a reconfiné. On a vu pas mal de grands orchestres du pays ou des théâtres diffuser sur internet des salles vides ou des scènes désertes ou bien parfois avec des instruments posés à terre. Et sur ces vidéos de 20 minutes comme 2020, rien, le silence. Avec ce mot-clé pour les réseaux sociaux, hashtag Sang und Klanglos, traduisez sans tambour ni trompette. Il voulait attirer l'attention sur la situation précaire du secteur au moment de ce second confinement, alors que les programmations recommençaient tout juste à fleurir. Comme en France, les artistes allemands le vivent comme une menace existentielle, même si le gouvernement allemand n'a pas été avare. L'aide financière annoncée au printemps a fait les gros titres. Jusqu'en France, où l'on a comparé les plans en faveur de la culture dans les deux pays, 1 milliard d'euros pour ce plan de sauvetage allemand, sauf qu'il permettait a priori de passer les quelques mois de la première vague, pas cette seconde, et l'Allemagne ne s'attendait pas à être frappée aujourd'hui aussi fortement par l'épidémie. Les institutions culturelles ont fait de la résistance, elles ont plaidé leur cause auprès du gouvernement, à l'aide des rapports épidémiologiques disponibles. Aucun cas positif au coronavirus n'a été prouvé dans un théâtre, un opéra, un cinéma ou un musée. Si le monde de la culture a courbé les chines au printemps, il se montre beaucoup moins silencieux ces dernières semaines. Le gouvernement de son côté rassure tout le monde, on sait que l'Allemagne s'est mise à dépenser sans compter dans cette crise et donc promet d'indemniser et d'éviter toute fermeture définitive. Et
Ludovic Piétenu, la culture qui souffre en raison de la pandémie en Europe, tour d'horizon plus large à retrouver sur notre site franceculture.fr. Tandis que l'UFC Que Choisir donne l'alerte, l'association de consommateurs estime à plus de 12 milliards d'euros l'an prochain les défauts de paiement pour les remboursements de crédit à la consommation. La Commission européenne, elle dévoile son plan pour éviter que les banques européennes évitent d'accumuler ce genre de créances dites douteuses, autrement dit non remboursées. On les appelle également les PNP, les prêts non performants ou encore crédits pourris. Et s'ils ont bien diminué depuis la crise financière de 2008, ils devraient exploser avec la crise sanitaire et la récession qui s'amorce. Or, plus une banque a de crédits non remboursés, plus elle est fragile, moins elle souhaite prêter et plus elle contribue à accentuer la crise. Les précisions d'Anne Lorchouin.
Il ne faudrait pas qu'à la crise économique qui s'annonce s'ajoute une crise bancaire. C'est en résumé ce qu'a expliqué la Commission européenne, qui estime qu'il est primordial, si l'on veut que les banques continuent de distribuer du crédit, qu'elles soient délestées de leurs créances douteuses, ces prêts en défaut de paiement qui risquent de s'accumuler dans les mois qui viennent. Les banques européennes avaient pourtant fait de gros efforts, avec l'aide de l'Europe, pour diminuer leur taux de prêts non performants, passant de 5,1% du montant total de leurs prêts en 2016 à 2,6% fin 2019, un chiffre disparate selon les pays. L'Italie, par exemple, est à 10%. Quoi qu'il en soit, la crise vient tout chambouler, c'est pourquoi la Commission souhaite dynamiser et surtout harmoniser le marché secondaire des actifs douteux. Ce sont des fonds d'investissement ou des sociétés de gestion d'actifs qui rachètent aux banques ces créances encombrantes. Le problème, c'est que ces fonds sont peu nombreux et peuvent donc se permettre de racheter ces crédits à des prix tellement bas que les banques n'y trouvent pas leur compte. La Commission imagine donc de créer des règles communes qui régissent ces rachats et de stimuler la création de nouvelles sociétés de gestion d'actifs. Pourquoi pas national, qui pourrait créer une concurrence saine. Mais tant que faire se peut, les banques sont appelées à restructurer leurs crédits impayés et les États priés de ne pas refinancer des banques non viables.
Anne Lorchouin. IBM confirme la suppression de 1251 postes en France d'ici 2022, soit un quart de ses effectifs dans l'Hexagone. Le géant de l'informatique américain souhaite se concentrer sur le cloud et l'informatique dématérialisée. C'est officiel, la pollution de l'air tue. La justice britannique le reconnaît pour la première fois. Selon elle, la pollution aux particules fines a contribué à aggraver la santé d'une fillette asthmatique. Elle habitait à Londres, tout près d'une autoroute. Maxence Peignet.
Elle s'appelait Ella. Elle avait 9 ans et elle est décédée des suites d'une crise d'asthme en 2013. Après 7 ans d'enquête, la mauvaise qualité de l'air a été reconnue comme l'une des causes principales de sa mort. C'est une première au Royaume-Uni. On estime qu'entre 28 et 36 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution dans le pays. Mais jamais aucun décès ne lui avait été directement attribué. La famille d'Ella vivait dans le sud-est de Londres, à seulement 25 mètres d'une rocade, parmi les plus fréquentées de la capitale. Du vivant de la fillette, les émissions de dioxyde d'azote y excédaient les limites légales fixées par le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les niveaux de particules fines dépassaient également le seuil recommandé par l'OMS. Ella longeait régulièrement cette route pour aller à l'école. Dans les deux dernières années de sa vie, elle fut hospitalisée 27 fois pour des problèmes respiratoires et des convulsions. Selon le médecin légiste en charge du dossier, les autorités locales et nationales auraient dû faire plus pour réduire la pollution à Londres. Il a également remis en cause le manque d'informations fournies à la famille sur les risques liés à la qualité de l'air. Dans son témoignage, la mère d'Ella a expliqué qu'elle aurait fait n'importe quoi pour aider sa fille et qu'elle aurait déménagé sans hésiter si les médecins le lui avaient recommandé.
Maxence Peignet. Au Nigeria, ce sont des gangs criminels qui ont agi pour le compte du groupe djihadiste Boko Haram dans le rapt des lycéens à Kankara, dans le nord-ouest du pays. Quelques 333 adolescents sont toujours officiellement portés disparus depuis l'attaque de leur pensionnat. Mais les habitants de cette ville, située en zone rurale, affirment qu'il serait plus de 500. Lisa Fabian.
Quelques lycéens ont pu s'échapper et témoigner. 300 autres, peut-être beaucoup plus, ont été emmenés à des kilomètres de leur pensionnat de Kankara, séparés en plusieurs groupes et confiés à des gangs locaux. Une stratégie qui complique leur traque, selon l'Amdi Obasi de Crisis Group au Nigeria.
Le sauvetage est très compliqué et toute tentative des forces de sécurité ou de l'armée pour libérer un groupe mettrait aussitôt les autres groupes d'enfants en danger.
Le djihadiste nigérian Aboubakar Shekau a revendiqué cette enlèvement de masse, mais l'opération elle-même a été menée par plusieurs groupes criminels du nord-ouest du Nigeria, une zone qui était jusque-là relativement épargnée par la violence djihadiste.
Plusieurs sources dans la région affirment que le kidnapping a été mené à bien par des bandits locaux qui opèrent depuis longtemps dans cette zone. La nature de leur relation avec Boko Haram est floue, peut-être est-ce transactionnel, peut-être plus idéologique. En tout cas, ce ne sont pas des djihadistes du nord reste du Nigeria qui sont venus jusqu'ici pour agir. Ce sont des criminels locaux avec lesquels Shekau a fait alliance.
Ce mercredi, beaucoup d'écoles ont fermé leurs portes dans le nord-ouest du Nigeria, gagné par la peur.
Lisa Fabian, correspondante de RFI pour France Culture. Svetlana Tikhanovskaya, la chef de file de l'opposition belarusse au président Alexandre Loukachenko, a reçu aujourd'hui le prix Sakharov lors d'une cérémonie au Parlement européen. Depuis son exil en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaya se bat pour de nouvelles élections libres au Bélarus. Je vous rappelle la principale information de ce journal. La Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict dans le cadre du procès des attentats de janvier 2015. Des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité ont été prononcées contre les 14 accusés. La perpétuité pour Mohamed Belloucine, Ali Riza Polat, considéré comme la pièce maîtresse des attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, écope de 30 ans de réclusion criminelle. Même peine pour Hayat Boumediene. La météo demain est pluvieuse, quelques gouttes à prévoir dans la matinée d'ouest en est, des pluies plus continues dans le Languedoc et particulièrement dans les Cévennes, une bonne partie de la journée. Côté température, elles seront plutôt douces pour la saison. Il fera demain matin 6 degrés à Strasbourg, 7 à Amiens et Rennes, 8 à Paris, 8 aussi à Tours et Toulouse, 10 degrés à Bordeaux, 11 à Ajaccio, 13 degrés à Marseille. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. Thank you.